Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ouvre-moi ou le chasseur me tuera. Lapin, on tripia. Me serrer la main. Me serrer la main. Me serrer la main.
Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors, bienvenue à vous dans Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram.
Alexandra a toujours pensé que sa maternité ne serait pas une mince affaire et cette pensée venait des douleurs qu'elle ressentait au moment de ses règles. Alors que les médecins lui ont toujours fait comprendre qu'avoir mal au ventre était normal, on finira par lui diagnostiquer des trompes bouchées. C'est donc par la PMA qu'elle débute son projet de grossesse, laquelle se transforme en grossesse gémellaire. Tout excitée de devenir maman, malheureusement une pré-éclampsie va avancer le terme de son accouchement et ses deux filles naissent prématurées, 2 mois plus tôt que prévu. Tout s'enchaîne alors très vite, une césarienne en urgence, 2 bébés en néonate et Alexandra qui comprend rapidement qu'elle n'est pas prête pour tout ça. Complètement secouée par cet immense tourbillon, elle ne sait pas comment s'y prendre avec ses bébés et ne ressent pas d'amour immédiat pour ses deux filles. Alors, elle fait tout mécaniquement, pleure beaucoup, et il lui faudra du temps pour accepter que la vague d'amour n'arrive pas forcément tout de suite, comme on nous le dit dans les magazines. Il lui faudra du temps pour devenir maman. Dans cet épisode, Alexandra nous raconte sa grossesse à moitié alitée, la solitude dans laquelle elle est entrée quand elle est devenue mère, comment elle a pu prendre sa place en tant que maman de jumelles, et la jolie façon dont elle a fermé la porte à sa dépression postpartum. Bonne écoute.
Bonjour Alexandra.
Bonjour Shane.
Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon.
Merci à toi de me recevoir.
Alors, tu es la maman de 2 jumelles.
C'est ça.
Elles ont quel âge ?
Elles ont 26 mois.
Et alors, comment est arrivé le sujet de la maternité ? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu pensais depuis toute jeune ?
J'y pensais, oui, comme je pense un peu toutes les femmes avec un peu toutes les injonctions qu'on a autour de nous, etc. J'en entendais beaucoup parler, je voyais beaucoup de mes amis devenir maman autour de moi. Mais je savais que je voulais devenir maman, mais j'ai toujours su que ça serait compliqué pour moi. Ça, c'est quelque chose que j'explique maintenant, mais que j'expliquais pas avant. Je le disais toujours à mes copines, etc. Quand on me demandait « Alors, et toi, est-ce que tu y penses ?» Je voulais devenir maman, mais je me disais, si un jour j'arrive à avoir un enfant, déjà, ça sera bien.
Ah
c'était,
ouais.
C'était souvent ma réponse. Ouais. Je savais que ce serait compliqué, peut-être parce que ben justement, je souffrais beaucoup pendant mes règles, etc. Alors, j'entendais beaucoup parler d'endométriose ou autre, mais je prenais pas trop ça au sérieux jusqu'à arriver à me mettre en couple avec mon conjoint actuel. Et donc, quand j'ai rencontré mon compagnon, on en a discuté. C'était un souhait qu'on avait... tous les deux, et j'ai décidé de faire un peu plus de recherche du côté des douleurs que j'avais justement pendant mes règles.
Voilà. Et alors, on t'a dit quoi à ce sujet ?
Alors, j'ai vu beaucoup de gynécologues qui m'ont pas du tout prise au sérieux. On me disait tout le temps que c'était normal de souffrir pendant ses règles, que c'était le lot de toutes les femmes. Y en a même un qui m'a sorti la fameuse phrase « Mais vous savez, c'est connu, tu enfanteras dans la douleur. » Oui, ce qui est les paroles un peu bibliques, etc. Je suis tombée sur des personnes un peu arriérées, on va dire, jusqu'au jour où j'ai fait une crise de douleur un peu plus importante que les autres, où là, je suis carrément tombée au travail à ne plus pouvoir bouger. Et j'ai rencontré un autre gynécologue qu'on m'avait recommandé qui, lui, m'a prise très au sérieux. Donc, on a mené des investigations, j'ai fait une célioscopie et ça a donné lieu donc à une suspicion d'endométriose. Et quand il a ouvert, il s'est rendu compte que j'avais les 2 trompes complètement bouchées. Il a tenté de faire ce qu'il pouvait sur la table d'opération, mais malheureusement, il n'a pas réussi à les déboucher. Et là, le diagnostic a été posé. On m'a dit « Avoir des enfants naturellement, ce sera très compliqué pour vous ». Là, ça a été la douche froide, mais moi, j'étais soulagée parce que j'avais enfin des mots sur cette appréhension que j'avais depuis toute jeune. Et il nous a dit que le jour où on voudrait devenir parent, il faudrait se lancer dans un parcours de PMA. Et, Et là, la question de devenir parent, c'est très... Enfin, disons que ça s'est accéléré. Et avec mon conjoint, on s'est renseigné et on a su que la PMA, c'était pas un parcours facile. Et on s'est dit, autant commencer tout de suite, puisqu'on savait qu'à terme, on voudrait des enfants.
T'avais déjà entendu parler de la PMA ?
Je savais ce que c'était, mais je me suis vraiment renseignée dessus quand on m'a posé ce diagnostic.
Et alors, tu t'es dit quoi ? Tu t'es dit que ça allait être...
J'ai eu peur et en même temps, honnêtement, j'étais excitée. Disons que au moment où on a lancé le procédure, on a été conviés à une réunion d'information avec tout un tas de professionnels, mais aussi de psychologues, etc. Et là, on a eu vraiment des témoignages et des informations sur les deux côtés, c'est-à-dire le côté psychologique qui est justement pour beaucoup de couples difficile à supporter, et le côté médical où ils expliquaient vraiment tout ce qui est probabilité, tout ce qui est statistique en fait autour de la PMA. Nous en plus on était directement dans un parcours de FIV ICSI, c'est-à-dire que ça consiste à vraiment sélectionner les spermatozoïdes qui potentiellement pourront donner lieu à des embryons. Donc c'est un petit peu plus pointu en fait qu'une FIV classique, et c'est souvent recommandé pour les personnes, enfin pour les couples tout du moins où le compagnon a aussi des spermatozoïdes qui sont pas forcément au top du top. Donc c'était notre cas aussi, et là on a eu vraiment toutes les informations, et ce qui en est ressorti, c'était de l'excitation pour moi. Parce que la particularité, c'est que nous, on savait qu'on voulait être parents, mais on n'était pas dans cette attente depuis des années. Comme beaucoup de couples qui essaient, qui arrivent pas, et au bout d'un an, deux ans, ils rentrent dans un parcours de FIV où ils ont beaucoup déjà d'impatience, et généralement, ils ont un passif aussi avec cette attente qui crée beaucoup de frustration et de douleur. Nous, on n'avait pas ça. Nous, on nous a tout de suite lancé dedans, mais avant ça, on ne cherchait pas particulièrement à avoir d'enfants, en fait. C'est la particularité. Donc, on était tous les deux très excités, en fait. Et j'ai pas eu honnêtement, le parcours de FIV pour moi a pas été aussi douloureux que ce que je peux entendre pour d'autres femmes, parce que c'était notre première FIV et c'était que de la découverte en fait. Voilà, donc on s'est lancé dedans. Toute la procédure de FIV s'est bien passée. J'ai pas eu beaucoup d'effets secondaires. J'ai pas eu de saute d'humeur ou de difficultés psychologiques. Au contraire, c'est vraiment cet état d'excitation qui restait. Et j'étais persuadée que ça allait fonctionner en fait, parce que le gynécologue était très très encourageant, et toute l'équipe du laboratoire, etc., était aussi très très encourageante. Et j'ai eu donc 7 embryons, ce qui a été, enfin 7, oui, comment on dit ça ? En fait, ils m'ont prélevé mes follicules et ça a donné lieu à 7 embryons une fois la FIV faite. Donc on les a tout de suite congelés parce que j'ai fait une hyperstimulation, j'ai pas pu avoir le transfert tout de suite. Et ensuite, j'ai eu le premier transfert, donc qui n'a pas fonctionné. Et là, ça a été la douche froide, justement, parce que je partais vraiment très, très positive. Et j'étais persuadée d'être enceinte. En fait, quand je suis sortie du transfert, qu'on m'a mis le premier embryon, je me suis dit, bah, ça y est, c'est bon, je suis enceinte, on va avoir un bébé, quoi.
Ouais.
Et là, j'ai touché du doigt. Est-ce que c'était vraiment le parcours de PMA, parce que ça n'a pas fonctionné.
Là, ça t'avait pris combien de temps déjà pour faire tout ça?
Alors, entre le moment où on a dit c'est bon, on se lance dans la FIV, et le premier transfert, il s'est écoulé à peu près 6 mois. 6 mois parce qu'il a fallu faire tout plein d'examens complémentaires en plus de ceux que j'avais déjà fait, donc beaucoup de prises de sang, de spermogrammes, etc. Ensuite, il a fallu me mettre en ménopause artificielle parce que au-delà de la FIV, j'avais quand même ces douleurs de règles qui persistaient et ça devenait de plus en plus difficile. C'était de plus en plus douloureux, donc on m'a mis sous ménopause artificielle pour couper mes règles. Et ensuite, on a lancé la FIV, et là, le protocole durait 1 mois. Donc, en tout et pour tout, il a fallu 6 mois avant d'arriver au premier transfert.
Ok.
Et donc, à la sortie de la ponction, comme j'ai dit, il y a eu l'hyperstimulation, ce qui a retardé aussi le transfert. C'est pour ça qu'on est vraiment sur 6 mois. Pour la première FIV, enfin, en tout cas, pour la procédure de FIV et le premier transfert, ça a été très long. Ça a été très long. Mais ensuite, une fois que le premier transfert n'a pas fonctionné, on m'a laissé un cycle de repos et on a pu me faire un autre transfert par rapport aux 6 autres embryons congelés qui me restaient.
D'accord. Et donc voilà. Là, comment ça s'est passé ?
Ça n'a pas fonctionné non plus. Le deuxième transfert n'a pas fonctionné. Et là, je restais positive malgré tout. C'était difficile, mais je me disais, c'est pas grave, il nous reste encore des embryons. Et puis, après tout, ça fait qu'une seule FIV. En France, on a la chance d'en avoir 4 remboursés par la Sécu. Je me disais, ça va fonctionner. C'est pas comme si on était super pressé. On va y arriver, quoi. Donc, toujours pareil, un cycle de repos, et celui d'après, on m'a retransféré 2 embryons. Et là, j'ai eu la surprise d'avoir un test positif. C'était la première fois, j'étais trop contente. Je me suis dit, ça y est, c'est bon. Dès que j'ai pris le test en photo, je l'ai envoyé à mes parents. J'en ai parlé à Pacom. Je me suis dit, ça y est, je suis enceinte, etc., etc. Sauf que là, j'ai appris aussi une leçon de vie, c'est que les fausses couches, les trois premiers mois, sont très classiques. Ce sujet sur lequel j'étais pas du tout renseignée. Et quand j'ai vu que le taux n'augmentait pas, j'en ai parlé à mon gynécologue et il m'a dit, non, là, en fait... c'est ce qu'on appelle une fausse couche très précoce. Ça va pas fonctionner. Il faut que le taux double toutes les 48 heures. Et moi, mon premier taux était déjà très bas. Et le jour d'après, il baissait encore plus. Et donc là, j'ai fait une fausse couche, en fait. J'ai fait une fausse couche. Dans les 3-4 jours qui ont suivi, ça s'est évacué tout seul aux toilettes, à mon travail. Et là, par contre, l'excitation n'était plus trop présente. Il y avait que de la douleur, quoi. Parce que j'ai, même si c'était que 3 jours, j'étais déjà projetée, quoi. Pour moi, ça y est, c'était mon bébé, il allait s'accrocher, on allait être parents. Je me suis très vite emballée, en fait. Très vite emballée. Et du coup, là, ça a été assez difficile. Et le point positif, c'est qu'il nous restait donc 2 embryons sur les 7 qu'on avait. Et là, mon gynécologue m'a dit, une phrase qui m'a beaucoup encouragée, il m'a dit, vous savez, gardez que le positif, ça a réussi à s'accrocher. Vous, même si ça n'a pas duré, on sait que votre endomètre est capable d'accueillir un ou deux embryons. Soyez positive, je suis sûre que ça va marcher sur la prochaine. Donc il s'est engagé en disant ça, mais depuis le début il était très encourageant. Donc j'ai continué à lui faire confiance, en fait. J'ai continué à lui faire confiance et il m'a dit le mois prochain on recommence et si ça marche pas on ira sur une deuxième FIV, on changera les taux, on fera des analyses pour savoir pourquoi ça s'accroche pas au niveau de l'endomètre, mais on va déjà mettre les 2 derniers. Donc, un cycle de repos et le cycle d'après, il m'a transféré nos 2 derniers embryons. Et là, ça a fonctionné.
Donc là, on est sur un parcours total d'une année.
Ça a duré là, ça a duré un an. Ça a vraiment duré un an, de 2017 à 2018. Okay. Donc, vraiment, ça a même duré 1 an et 2 mois parce que la première FIV, c'était en novembre. Et quand je suis tombée enceinte de mes filles, c'était en janvier. Donc, ça a duré 1 an et 2 mois.
Et donc là, alors, grande nouvelle, ça y est, ça fonctionne.
Et là, grande nouvelle, ça y est, ça a fonctionné. Donc, je me suis pas emballée quand j'ai vu le premier test, enfin, le test positif, parce que j'avais en mémoire ce qui s'était passé un mois et demi avant. Je me suis pas tout de suite emballée, mais lors de la prise de sang, le taux était vraiment très haut par rapport à la première. Donc, j'étais quand même plus positive. La prise de sang 48 heures après, le taux, il avait pas doublé, il avait carrément triplé. Donc, j'étais encore plus positive. Et là, mon gynécologue, sachant que j'avais un petit peu peur par rapport à ce qui s'était passé, il m'a proposé de faire une échographie un peu précoce, intravaginal. Donc, et on a, au moment même où il a mis la sonde sur l'image, j'ai vu 2 ronds. Et là, j'ai regardé, je me suis dit, les 2 se sont accrochés. Il m'a dit, oui, vous avez bien vu, les 2 se sont accrochés. Là, ça a été la surprise. Bon, on s'en doutait, mais je me disais, si un tient, ce sera déjà très bien. Mais quand j'ai vu ça, malgré tout, j'ai eu cette surprise parce que je pensais pas qu'il y aurait les 2. Et il m'a dit, vous savez, on a toujours tendance à dire que les taux ne veulent rien dire, mais le vote, c'est vrai qu'il est très, très élevé. Et dans votre cas, j'avais un peu la puce à l'oreille, quoi. Et du coup, je suis sortie de là avec mes premiers clichés. J'ai appelé Pacom, j'ai dit, il y en a 2. Et apparemment, c'est très bien parti. On avait déjà pu entendre les cœurs, etc. Ça a été très, très rapide et j'étais super contente, quoi.
Et donc là, tu t'es dit des jumelles. Est-ce que tu t'es posé des millions de questions ou
t'as... Oui, posé beaucoup de questions. À ce moment-là, je savais qu'il y en avait 2 et je savais pas encore fille, garçon, etc. Mais je me suis posé beaucoup de questions. Mais j'ai pas eu peur. J'ai bizarrement, quand on sait ce qui m'attendait après, c'est rigolo, mais j'ai dès le départ, j'étais très très positive en fait. J'avais pas vraiment peur. Je me disais on va s'en sortir. Je lisais plein de témoignages. Je me renseignais sur ce que c'était le quotidien de parents de jumeaux. Et la plupart du temps, bizarrement, ce que je lisais c'était que du positif en fait. Des gens qui en tout cas exposaient leurs difficultés, mais terminaient toujours en disant que c'était que du bonheur. Donc je me disais ça va être que du bonheur, ça va être trop bien, on va s'en sortir, etc. Et puis après tout, j'avais cette tendance à croire que nos enfants allaient s'adapter à notre mode de vie. C'est très bête, hein, mais je me disais, de toute manière, ça va être une prolongation de nous-mêmes, ça va couler de source, ils vont s'adapter à nous, et ça va rouler, etc. Alors aujourd'hui, quand je dis ça, je rigole beaucoup, hein, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'on est bête. Mais bon, j'y croyais, et là, on est parti sur une grossesse, quoi, sur une grossesse.
Et alors, comment s'est passée cette grossesse?
Alors, le lendemain de ce rendez-vous chez le gynécologue, j'ai commencé à vomir. Là, ça a été 3 mois très, très compliqués. Les 3 premiers mois, j'ai passé mon temps à avoir envie de vomir et à vomir. Ça a été, enfin, à tel point que j'ai été arrêtée tout de suite parce que je tenais plus debout, j'arrivais plus rien à avaler et j'ai passé 3 mois quasiment que allongée. Et je vomissais tout le temps. Je vomissais tout le temps. Ça a été très difficile les 3 premiers mois. Mais pour moi, c'était bon signe. Ça veut dire que la grossesse se passait bien, que mes bébés s'accrochaient bien. Donc, je le vivais pas mal, même si c'était dur physiquement. Moralement, j'étais au top du top, quoi. Je me disais, ça y est, je suis enceinte, quoi. J'étais vraiment contente. Le deuxième trimestre, quant à lui, s'est passé à la perfection. C'est comme beaucoup de mamans, hein, les nausées se sont arrêtées. J'avais beaucoup de remontées acides, mais je le gérais plutôt bien avec les traitements qu'on m'avait donnés. Et mon ventre n'était encore pas trop imposant, donc j'avais vraiment, ce deuxième trimestre, je l'ai vraiment très très bien vécu.
Tu avais repris le travail du coup ?
Non, je suis restée arrêtée en fait parce que j'avais des contractions. J'avais des contractions et alors moi je m'en rendais pas compte, mais quand j'avais les contrôles, ça montrait que mon ventre contractait beaucoup. Donc c'était pas du tout douloureux, mais préférais que je reste à la maison pour être le plus possible en position allongée. Donc j'étais pas alitée, mais le gynécologue me recommandait de rester allongée le plus possible pour essayer de limiter les contractions et d'aller le plus loin dans la grossesse. Eux savaient qu'il y avait des risques de naissance prématurée. Moi, j'en avais pas conscience, mais du coup, ils voulaient préserver la grossesse pour aller le plus loin possible. Et ça s'est compliqué donc à la fin du deuxième trimestre parce que mon col s'est raccourci. Et là, le gynécologue m'a demandé de rester alitée strictement. Voilà. Et du coup, j'avais une sage-femme qui passait à la maison un matin sur deux pour me faire un monitoring pour être sûre que ça aille. Donc, j'essayais de respecter l'alitement, mais pour moi c'était difficile parce que je voulais mettre en place la chambre pour les enfants, enfin faire tous mes petits achats de future maman. On avait tous les meubles à monter, à choisir, etc. Donc je respectais ça le plus possible, mais j'avoue que je bougeais quand même un peu. Et donc la sage-femme venait, elle remarquait rien de d'anormal et elle me disait ben continuez à respecter ce que le gynécologue vous a dit. Jusqu'au jour où elle est partie en vacances, c'était donc le début du deuxième trimestre et c'est sa remplaçante qui est venue à la maison. Et quand elle m'a vue, elle a été surprise tout de suite par les œdèmes que j'avais. Donc moi, j'avais les pieds qui gonflaient beaucoup, mais je me rendais pas compte que ça montait parce que j'en souffrais pas. Je pensais que c'était comme toutes les femmes enceintes, mais elle a trouvé ça assez impressionnant. Donc elle m'a prescrit une analyse d'urine sur 24 heures à faire. Je me suis dit bon, si elle le prescrit, je vais le faire, mais je pensais pas qu'il y avait un souci particulier parce que, comme je disais, moi physiquement tout allait bien quoi, et les bébés allaient bien aussi au monitoring, donc je disais c'est des œdèmes comme toutes les femmes enceintes quoi. Donc j'ai quand même fait ce qu'elle m'a demandé de faire et quand je l'ai amené donc 24 heures après au laboratoire, la dame du labo m'a dit mais ça correspond donc à vraiment 24 heures de vos urines et je lui ai dit ben oui j'ai fait très scrupuleusement ce qu'on m'a demandé de faire, c'était compliqué, c'était en plein mois d'août, mais j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. Elle me dit ça paraît vraiment bizarre, il doit y avoir une erreur, mais bon on va analyser ça. Et j'ai été appelée une heure après la sage-femme qui m'avait prescrit ça et elle m'a dit d'aller tout de suite aux urgences parce qu'apparemment j'avais beaucoup de protéines dans les urines. Et j'y suis allée. Ça a été assez compliqué parce que j'avais peur de pas en sortir. Et le gynécologue qui m'a reçu aux urgences m'a dit que je faisais une pré-éclampsie, que les œdèmes étaient montés un peu partout dans mon corps. Il me disait, regardez, quand vous appuyez sur votre jambe, la marque du doigt reste, ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup d'eau. Il essayait de m'expliquer ce que c'était vraiment des œdèmes parce que j'en entendais parler. Mais en pratique, pour moi, c'était juste les pieds gonflés. Et donc là, il s'est rendu compte que sur mon ventre, les traces du monitoring restaient incrustées dans la peau, que j'avais vraiment l'eau qui montait dans tout mon corps. Et il m'a dit, moi, je vous conseille de rester à la maison. Et là, j'ai été prise de panique. J'ai dit non, je veux rentrer à la maison. La sage-femme viendra demain matin. Je veux pas rester là. Je suis pas du tout prête. J'ai demandé à Pacom, donc mon conjoint, qui me ramène. Lui, il était pas trop d'accord. Mais personne pouvait aller contre mon envie. Donc j'ai signé une décharge et je suis rentrée parce que là, j'étais vraiment prise de panique. En fait, j'étais pas prête à rester. Pour moi, je me sentais bien. J'ai voulu rentrer chez moi.
Parce que là, il t'a expliqué ce que c'était une prééclampsie. Il t'a dit quels étaient les risques. C'est quoi exactement ?
Exactement. Alors, il m'a dit que la prééclampsie, c'était une maladie de la grossesse, que ils avaient pas énormément de précision sur les causes, mais que d'une manière générale, c'était le corps qui reconnaissait le placenta comme un corps étranger et qui du coup se battait pour l'expulser. Et que la seule solution pour soigner cette maladie de la grossesse était d'accoucher. Et que donc ça se manifestait par une tension très élevée, par beaucoup d'œdèmes, par en l'occurrence moi mes reins qui commençaient à faillir, c'est-à-dire que j'éliminais plus l'eau que je buvais, c'est pour ça que j'urinais très peu, que ce que j'avais recueilli ce jour-là c'était l'équivalent d'un seul pipi quoi, clairement pas 24 heures et il m'a demandé à quel rythme je buvais, donc on était en plein mois d'août, pleine canicule, je devais boire 2 litres d'eau par jour et il me disait ben ça montre bien que vos reins commencent à faillir et la tension élevée est dangereuse et il m'a dit que c'est pour ça qu'il voulait me garder en comment dire, pour essayer de prolonger la grossesse le plus loin possible, mais tout en me préservant moi, ma santé, mes organes et les bébés. Et comme moi, il m'exposait ces risques, mais physiquement, je ne souffrais pas, en fait. À part ces œdèmes qui étaient handicapants parce que j'avais les articulations des jambes qui coinçaient, mes bébés, eux, allaient très bien, selon les monitorings qu'on faisait, et puis les échographies. Et moi, je souffrais pas. J'avais beaucoup d'œdèmes, mais j'avais pas de douleur. Donc, j'ai pas voulu rester parce que j'ai eu peur d'accoucher trop tôt, en fait. Et j'avais l'impression que tous ces médecins et les infirmières, etc., paniquaient alors qu'il n'y avait pas lieu. J'étais dans le déni en fait de ce qui me racontait. Je leur disais mais non, ils déconnent, c'est pas possible, ça va aller quoi. Donc je suis rentrée à la maison et la sage-femme est venue le lendemain matin. Oui c'est ça, le lendemain matin, et elle m'a expliqué que elle constatait, même si elle était que remplaçante, en deux visites, elle constatait que ça s'aggravait, que mon visage, mes yeux étaient gonflés et que les œdèmes prenaient de l'ampleur, que ma tension n'était pas bonne, et elle m'a conseillé de retourner aux urgences. Donc quand elle est partie, pas comme elle était au travail, moi j'étais seule chez moi, j'ai appelé ma mère, je lui ai un peu expliqué, elle a paniqué aussi, mais en entendant que moi j'étais toujours pas prête à retourner à l'hôpital, elle a choisi d'appeler mon médecin traitant qui me connaît depuis petite, et elle lui a demandé de me téléphoner pour qu'il me fasse un peu ouvrir les yeux quoi. Alors quand la médecin qui me connaît depuis petite m'a téléphoné une demi-heure après, elle m'a dit « Alexandra, là, faut vraiment que tu rentres à l'hôpital. Si tu le fais pas pour toi, fais-le pour tes enfants. Je te garantis que moi, avec mon expérience, c'est quelque chose qui peut être vraiment dangereux. Il faut vraiment que tu sois suivie. » Donc j'ai eu le temps, suite à cet appel-là, de mettre toutes mes petites affaires en place, de finir mes valises, de finir celles des enfants. Et quand Pacom est rentré du travail en début après-midi, m'a conduite aux urgences. Et là, ils m'ont vu revenir donc le lendemain. Et je leur ai dit que c'est bon, j'étais prête à rester.
Parce que là, il te restait combien de temps de grossesse encore ?
J'étais à 7 mois de grossesse. Il me restait normalement encore 2 mois. Et ce qui me faisait peur, c'est que malgré tout ça, j'adorais être enceinte. J'adorais savoir mes bébés à l'intérieur de moi, protégés. L'état, moi, dans lequel j'étais physiquement, comme je souffrais pas, j'appréciais vraiment la grossesse et j'avais peur qu'on m'en vole un morceau. Je voulais continuer à rester chez moi et à profiter de ces moments un peu privilégiés avant l'arrivée des petites. Et je me disais, mais il me reste encore 2 mois. C'est trop tôt pour être hospitalisée, en fait. Je savais que généralement, les futures mamans de jumeaux, et puis quand on a des grossesses gémellaires comme ça et qu'on rentre à l'hôpital à ce terme, c'est rare qu'on en sorte. Donc, après tous ces témoignages que j'avais vus, je savais un peu ce qui m'attendait et je faisais tout pour essayer de l'éviter. Donc, quand je suis arrivée aux urgences ce jour-là, j'avais un peu intégré le fait que ça devenait urgent. Mais j'étais pas pour autant prête à ce que ça se termine. Donc ils m'ont gardée, ils m'ont montée en chambre. Les monitorings étaient toujours très positifs en ce qui concerne les enfants, mais moi j'avais des prises de sang et puis des bilans avec pour prendre la tension, etc. à peu près toutes les 2 heures. Et à chaque fois, ça s'aggravait. La tension n'était pas bonne et puis l'analyse d'urine montrait toujours une présence de protéines qui était de plus en plus importante et des quantités qui étaient de plus en plus faibles. Donc là, on était parti pour du lundi au vendredi, donc pour 5 jours d'hospitalisation. Tous les matins, on me faisait rester à jeun parce qu'on m'avait dit dès le départ que ce serait une césarienne parce qu'on pouvait pas se permettre un déclenchement avec la pré-éclampsie. Et tous les matins, je restais à jeun en attendant les résultats du bilan pour savoir si on pouvait faire tirer 24 heures de plus ou pas. En fonction de mon état. C'était une discussion tous les matins avec l'équipe. Donc très tôt, j'ai eu cette certitude que ce serait une césarienne. J'ai eu aussi la visite donc des gens de néonates pour me préparer, des pédiatres, de la gynécologue qui m'a fait tout de suite les injections de corticoïdes pour maturer les poumons des bébés en vue d'une naissance prématurée. la visite aussi de l'anesthésiste qui m'expliquait sous quelle forme se ferait la césarienne. Et tous les matins, donc j'attendais qu'on me dise est-ce que c'est pour aujourd'hui ou pas. Et le vendredi matin est arrivé, et ce matin-là, la gynécologue, quand elle est arrivée, elle m'a dit « on descend tout de suite, là les reins commencent clairement à lâcher ». Mes filles allaient très bien, elles étaient toutes les deux la tête en bas, tout était parfait pour un accouchement par voie basse, mais c'est vraiment moi et mon état qui a fait que ça a été une césarienne en urgence un vendredi matin. On m'a dit « c'est maintenant », une heure après j'étais au bloc. Voilà, ça a été très difficile. Ça pour moi... D'ailleurs, au moment où la gynécologue est rentrée dans la pièce pour dire ça, les sages-femmes, les aides-soignantes étaient là pour me faire la prise de tension. Et au moment où elle a dit « c'est maintenant », tous les bips ont sonné, mon cœur s'est mis à battre à la chamade. J'étais pas du tout prête, en fait. J'étais pas du tout prête. Même si je le savais, le fait qu'on me dise « c'est maintenant », j'ai été prise vraiment d'une crise de panique, quoi. J'étais terrorisée de ce qui allait se passer. Donc, je leur ai demandé l'autorisation d'appeler quand même mon conjoint qui était au travail, pour qu'il vienne. Lui, il savait que dans ces heures-là, potentiellement, un des matins, on allait l'appeler pour lui dire de venir parce que c'était maintenant. Donc, il avait quand même prévenu son employeur. Et je l'ai appelé, il est venu dans la demi-heure. Et il m'a accompagné jusqu'à l'entrée du bloc. Jusqu'à ce qu'on lui dise, c'est pas du tout par là, monsieur, faut que vous fassiez le tour pour vous changer. Vous allez rentrer vraiment au moment où madame sera prête et juste pour la sortie des bébés, en fait. Et quand ils l'ont fait partir, je me suis mise à pleurer parce que j'avais peur. Je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à intégrer qu'il allait être là, mais après. Et attendre toute seule à l'entrée du bloc, ça m'a fait paniquer. Donc, en plus, j'avais les œdèmes qui étaient montés jusque dans ma gorge, donc j'arrivais plus à rester allongée, je pouvais plus respirer, en fait. J'avais un œdème dans la gorge, quoi. Donc, mes voies respiratoires étaient presque obstruées. Donc, je leur demandais de m'asseoir parce que être en position allongée, donc le ventre, plus toute l'eau, plus le poids des bébés. C'était assez horrible, en fait. J'arrivais vraiment plus du tout à respirer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait une pré-éclampsie, comme ça, chaque matin, ils nous pèsent pour savoir combien on prend en termes d'eau, parce qu'il y a des prises qui sont assez fulgurantes. Et moi, entre la veille et ce matin-là, j'avais pris 11 kilos d'eau dans la nuit, dans la journée. Donc, c'est pour ça qu'ils ont césarisé en urgence, parce que tous mes organes commençaient à ne plus fonctionner, en fait. Et ça a été le facteur déclenchant pour dire, bon, ben maintenant, elle urine plus, l'eau se stocke, il faut vraiment l'opérer, quoi. Donc, ils ont fait tirer le plus possible, mais là, c'était plus gérable. Donc, je me retrouve seule dans ce sas avant de rentrer au bloc, et je pleurais. Et là, il y a l'infirmière anesthésiste et une sage-femme qui sont venues me voir parce que, en fait, avant de descendre en chambre, ils n'avaient pas pu me poser le cathéter. J'avais trop d'eau dans les bras. Et ils me piquaient, mais j'avais des bleus vraiment partout sur tout le corps. Ils n'arrivaient pas à trouver un endroit où une veine était accessible. Donc, ils avaient dit, ben, c'est exceptionnel, mais il faudra que l'anesthésiste le fasse lui-même. Et comme l'anesthésiste, ben, c'est pas son boulot de poser le cathéter, il a fait venir l'infirmière dans le sas avant, infirmière anesthésiste, donc pour essayer de le faire. Par chance, elle a réussi et elle est accompagnée d'une sage-femme. Et en même temps qu'elle faisait son travail pour poser ce cathéter-là, elle essayait de me rassurer. Et signe du destin ou pas, cette infirmière et la sage-femme s'appelaient Eva et Anne. Anne, c'était l'infirmière anesthésiste, et la sage-femme, c'était Eva. Et moi, qui suis vraiment à fond sur les signes, je me suis dit, bon, ben, c'est un petit signe du destin pour me dire que je suis au bon endroit, au bon moment, et que ça va aller, puisque moi, je savais que mes filles, ce seraient Eva et Anna. Et je me suis dit, c'est quand même assez fou que, à ce moment-là, il y a ces deux dames-là et qu'elles s'appellent comme ça. Donc, ça m'a un peu rassurée. Elles ont discuté avec moi, elles ont essayé de me faire sourire, elles m'ont dit, vous inquiétez pas, ça va aller. Elles m'ont demandé justement comment mes filles allaient s'appeler. Je leur ai dit, elles ont encore plus souri. Elles m'ont dit, c'est quand même incroyable. C'était vraiment le petit signe au bon moment. Donc, je me suis calmée. L'infirmière anesthésiste est allée discuter avec l'anesthésiste et ils ont autorisé à faire la césarienne en ce que je sois presque assise, en fait. Donc, ils m'ont mis des genres de coussins dans le dos pour que je puisse être opérée presque assise parce que j'arrivais pas du tout à respirer et ça me faisait encore plus hyperventiler et paniquer, quoi. Donc, ils m'ont mis en position semi-assise et là, tout a commencé. Ils ont fait rentrer Pacom, il s'est mis à côté de moi. Comme je pleurais beaucoup, j'arrivais pas vraiment à me calmer. Lui, il me parlait de tout et de rien pour essayer de me faire oublier ce qui se passait. Donc, il parlait. Au milieu de sa voix, d'un coup, j'ai entendu un cri. Et c'était Eva. Ça s'est passé en un quart de seconde. Là, on a pleuré tous les deux. Parce que je me suis dit, mais ça y est, c'est concret, en fait. C'était assez fou. Dans tout ce brouhaha, d'un coup, c'est comme si c'était que du calme et un cri, quoi. Et on a su que ça y est, on était parents. Donc, Eva, je l'ai pas du tout vue. Ils l'ont tout de suite prise parce qu'elle avait besoin de soins assez rapidement. Elle a dû être intubée un petit instant pour évacuer tous les liquides qu'elle avait avalés. Mais je l'ai pas vue. Et une minute après, un deuxième cri, et là, c'était Anna. Ils sont passés très rapidement en face de moi. J'ai juste eu le temps de lui faire un bisou, mais sans même la regarder, ils l'ont pris aussi. Et là, Pacom est parti avec elle. Et là, ça a été le début d'un très long moment pour moi, le temps qu'ils recousent, qu'ils enlèvent le placenta, que j'aille en salle de réveil, etc. Ça a été très long. Mais je sais pas combien de temps après, je me suis retrouvée en salle de réveil. Et là, les gens s'affairaient autour de moi parce que, étant donné que j'avais beaucoup d'eau dans le corps, il y avait ce qu'ils appellent de la lymphe, c'est de l'eau qui s'écoulait de la plaie. Et ça me faisait saigner, en fait, j'étais un peu comme un ballon qu'on pique et l'eau sortait. c'était assez incroyable. Donc, je suis restée un peu plus longtemps en salle de réveil. Pas comme venaient me voir, mais ils l'ont vite fait partir parce que ils étaient obligés de faire des soins un peu impressionnants pour lui. Enfin, il n'avait pas à voir ça. Il y avait vraiment de l'eau et du sang partout, quoi. Donc, ils m'ont vite remontée en chambre et ils me donnaient des nouvelles des bébés, mais moi, j'étais plus vraiment moi, j'étais dans un autre monde, je me rendais pas compte de ce qui s'était passé, j'avais du mal à accepter tout ça. Pour moi, c'était trop rapide, en fait. Mon cerveau avait du mal à encaisser tout ce qui était en train de se passer. Donc, je me suis très vite retrouvée en chambre, l'anesthésie commençait à passer, j'avais beaucoup de douleurs, je me souviens, je souffrais beaucoup au niveau de la cicatrice. Pas comme venait me voir, mais il repartait vite avec les bébés, ce qui est totalement normal. Et puis moi, il y avait ma mère avec moi, mais pareil, elle allait voir mes filles, en fait. Et il faisait des allers-retours, mais j'étais toute seule. Jusqu'au soir où, en fait, chacun est rentré chez soi et je me suis retrouvée seule dans ma chambre et je me suis dit, ça y est, quoi, le ventre vide et le cœur lourd, comme on dit, parce que j'avais pas vu mes bébés et j'étais plus enceinte. Et je me disais, en une demi-journée, il y a tout qui a changé, quoi. Moi qui adorais être enceinte, moi qui adorais les avoir à l'intérieur de moi, ça y est, c'est terminé et c'est trop tôt. Et c'est trop tôt, c'est vraiment ce qui passait en boucle dans ma tête. J'étais pas prête. Donc, ce qui a été génial, par contre, c'est que il y a une infirmière puéricultrice qui est venue me voir. Elle m'a amené deux petites photos de mes bébés pour me montrer que ça allait et pour dire, même si vous pouvez pas être là tout de suite, vous inquiétez pas, tout se passe bien. Elles vont vraiment très bien, c'est des battantes, il n'y a aucun problème ni respiratoire ni d'alimentation, elles ont déjà le réflexe de succion, elles respirent bien. Eva est encore intubée ou sondée, j'ai plus vraiment le terme, mais pour être sûre qu'elle respire correctement. Mais en soi, elle m'a dit demain matin on va lui enlever parce qu'il n'y a vraiment aucun problème au terme où elles sont nées et qu'elles soient déjà aussi vive, avec déjà tous ces réflexes bien mis en place, c'est vraiment incroyable. N'ayez aucune inquiétude. Enfin, elle était très rassurante, quoi. Elle était vraiment très rassurante. Elle m'a montré les photos. Je regardais les photos, je me disais, c'est mes filles, normalement. D'après ce qu'on me dit, c'est mes filles, mais il y avait rien, quoi. Je me rendais pas compte. Donc, je me disais, ça ira mieux demain quand je vais aller les voir. J'ai essayé de dormir, ça a été une nuit très compliquée. Ils m'ont mis sous morphine parce que j'avais vraiment beaucoup de douleurs au niveau de la plaie. En fait, je sais pas si c'est parce que l'eau continuait de s'évacuer. On me changeait les pansements régulièrement et j'avais du mal à gérer cette douleur-là. Donc, ils m'ont mis sous morphine, ça a fini par passer. Le lendemain matin, ils ont essayé de me mettre debout, mais j'ai fait un malaise, j'ai pas réussi. J'étais très gênée parce que moi, j'étais encore avec la genre de blouse mais à moitié ouverte et ils essayaient de me lever mais j'étais pleine de sang, sale, nue, je me sentais enfin c'était avilissant en fait et j'avais beaucoup de mal à supporter ça après cette année de FIV et on fait une croix sur notre intimité et on sait pourquoi on le fait mais maintenant à ce moment-là en fait j'étais arrivée au bout de ce que je pouvais supporter en termes d'action sur mon corps en fait. J'avais l'impression, j'avais ce besoin de réapproprier mon corps et d'être nue, même pas propre, et eux qui essayaient de me mettre debout à tout prix, je me disais mais je suis pas une voiture, j'ai besoin d'un peu de calme déjà, s'il vous plaît sortez, je voulais attendre que ma mère arrive pour qu'elle m'aide à me préparer, mais j'avais besoin qu'on prenne un peu soin de moi autrement que de cette manière-là. Donc ma mère est venue avec elle et calmement j'ai réussi à me mettre debout. Parce que eux, pour éviter les phlébites et tout ça, ils sont pressés de nous mettre debout, mais ils sont pas à l'écoute. Enfin, en tout cas, en l'occurrence, l'équipe qui s'occupait de moi n'était pas à l'écoute de ma douleur à moi. Ils voulaient vraiment me mettre debout pour éviter les problèmes qui auraient pu être là par la suite. Mais j'étais pas prête. Donc, quand ma mère est arrivée, on a fait ça calmement. Elle m'a aidée à me nettoyer pour être présentable. Elle m'a aidée à m'habiller et elle m'a mis sur un fauteuil roulant pour qu'on m'amène voir mes bébés. Voilà. Donc quand ma mère est sortie leur dire c'est bon, elle est prête, ils sont venus, enfin l'équipe est venue et ils m'ont accompagnée jusqu'en néonat. Et là je suis arrivée dans une pièce où il y avait donc avec moi il y avait Pacom et ma maman et deux berceaux, c'était même pas des couveuses en fait, c'était juste des berceaux chauffants parce qu'elles régulaient très bien leur température. Et il y avait deux bébés. Et je me suis approchée, je les ai regardés et on m'a dit voilà, c'est vos filles. Et là douche froide parce que je m'attendais à ce que ce soit la vague de bonheur immense et de tout de suite les reconnaître et d'avoir ce lien avec elles et l'instinct maternel, de tout de suite savoir quoi faire, mais en fait pas du tout. On aurait pu à ce moment-là me montrer n'importe quel autre bébé en me disant c'est vos filles, j'aurais pu le croire parce que je les ai pas reconnues, je savais pas du tout à quoi elles ressemblaient. C'est pas moi qui les avais habillées, qui les avais changées, qui avait pris soin d'elles à leur naissance en fait. Moi je l'ai rencontré 24 heures après. Et la culpabilité mélangée à cette peur que j'avais, ça m'a mis à terre à ce moment-là. On m'a fait m'asseoir, on m'en a mis une dans les bras. Elle était minuscule, ses doigts, c'était des aiguilles, tellement c'était petit, et j'osais même pas la toucher, je savais pas comment me comporter. J'avais jamais pris de bébé dans mes bras en plus, donc j'étais vraiment pataude, je savais pas quoi faire. Et je l'ai regardée et j'attendais que quelqu'un la prenne pour s'en occuper parce que je savais pas quoi faire. Je savais vraiment pas quoi faire avec elle. Donc je suis restée là à peu près une heure. On m'a montré leur chambre et on m'a dit demain on fera le premier bain et les premiers soins. Mais comme c'était 24 heures après ma césarienne, il fallait que je retourne dans ma chambre à moi. Et donc c'était reparti pour une nuit seule dans ma chambre.
Là, t'en as parlé à quelqu'un du fait que tu ressentais rien, que tu te sentais...
Non, personne ne m'a rien demandé. On me disait, je recevais plein de messages, alors ça doit être que du bonheur, ça doit être vraiment génial d'être maman de jumelles, etc. Mais on n'osait même pas vraiment annoncer la naissance parce que c'était très tôt et le peu de personnes à qui je l'avais annoncé me disaient ça, mais personne ne m'a rien demandé, ni comment je me sentais, ni comment ça s'est bien passé, ni l'équipe, ni mes proches. J'étais seule dans ma chambre et j'attendais le lendemain de retourner les voir. Donc non, à ce moment-là, j'en ai pas parlé. Et ça aurait peut-être été bien d'en parler dès le début. Mais non, j'ai gardé ça et je me suis dit ça ira mieux demain. De toute manière, tout le monde dit que ça se passe trop bien. Tout le monde dit que c'est que du bonheur, donc ça va arriver, quoi. Ça va arriver, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Puis j'avais toujours entendu que des cas où ça arrivait. Donc pourquoi pas moi ? Donc je me suis dit, ça viendra demain, c'est normal, j'ai encore mal, je souffre. On ira les voir demain et on va m'expliquer. Et c'est bon, ça va être parti. Le lendemain matin, on m'a accompagnée pour les voir en néonat une fois de plus. Je suis arrivée dans la chambre et là, pareil, les deux berceaux et je les regardais et je me disais mais qu'est-ce que je dois faire s'il y en a une qui se réveille, je suis toute seule dans la chambre. En plus, j'avais du mal à me mettre debout. Comment ça va se passer? Et si elle pleure, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et plein de questions qui étaient là et moi qui savais pas quoi faire avec moi-même en fait. Je savais pas quoi faire avec mon corps, je savais pas quoi faire avec les bébés. Je me disais, j'avais l'impression d'être dans un film et d'être une actrice et de dire bon ben ça va venir, je vais savoir quoi faire, ou leur vraie maman va arriver et va m'expliquer quoi faire. Enfin j'étais vraiment vraiment perdue. Et du coup les sages-femmes et les puéricultrices arrêtaient pas de faire des allers-retours, mais je comprenais qu'elles attendaient de moi que je sache quoi faire en fait. Et moi je pouvais pas leur dire mais elles viennent d'arriver, je sais pas comment m'y prendre. Donc, il y a une des puricultrices qui a dû sentir mon désarroi, qui devait d'ailleurs se lire sur tout mon corps. Hein. Mais elle s'est un peu plus penchée sur mon cas. Elle était un peu plus ancienne aussi. C'était la plus âgée de toutes. Et elle m'a montré comment changer une couche. Heureusement, il y avait Pacom à ce moment-là qui était arrivé entre-temps. Donc, c'est lui qui l'a fait parce que moi, j'osais même pas les toucher. J'avais l'impression qu'elles étaient pas terminées, ce qui était le cas d'ailleurs. Elles n'étaient pas encore terminées puisqu'il leur manquait à peu près 2 mois dans mon ventre. Et il a pris en main les choses et ça m'a permis à moi d'observer et de dire bon ben quand je serai prête, je le ferai moi-même. Et là on a commencé à essayer de mettre en place l'allaitement. Ça aussi ça a été quelque chose d'assez épique dans la mesure où j'étais pas partie du tout pour allaiter. C'était pas un acte dans lequel je me sentais pas capable de le faire, je me reconnaissais pas dedans, j'avais pas eu de modèle autour de moi allant dans ce sens-là. Donc je m'étais dit que ce serait le biberon, mais depuis mon hospitalisation, on m'avait dit qu'en tant que future maman de bébé prématuré, je me devais de faire ce qu'il y avait de mieux pour elle, et que ce qui était le mieux pour elle, c'était l'allaitement. Donc comme on m'a dit ça, tel que je viens de te le dire, je me suis dit, bon ben je suis pas un monstre, jusqu'à preuve du contraire, il faut que je fasse le mieux pour mes bébés, donc on va tenter un allaitement, même si c'est pas mon envie. Et là, les sages-femmes sortaient mes seins et les pressaient pour essayer de faire sortir du colostrum. Voilà. Ah oui. Tel que je te le raconte. Oui, oui, ça s'est passé comme ça. Donc,
on t'a pas laissé les mettre toi-même au sein à aucun moment ?
Non, non, non. On les a placés à mon sein. Et en fait, comme pendant mon hospitalisation, c'est des choses qu'elles faisaient elles-mêmes pour essayer de faire sortir du colostrum pour leur donner dès leur naissance à la pipette, j'avais pris cette triste habitude de les laisser faire. Mais arrivé en néonat, on m'a montré un tire-lait et on m'a dit « vous devez vous en servir ». Et je leur ai dit « mais j'en suis incapable ». Parce que je n'ai jamais vu de tire-lait de ma vie, en fait, et je ne sais même pas comment ça fonctionne. Et elles m'ont dit, mais là, en fait, il va falloir les mettre au sein pour qu'elles stimulent la lactation, et en contrepartie, tirer votre lait, parce qu'on est obligé de faire un système d'allaitement mixte, comme vous êtes encore en maternité par rapport à vos 5 jours obligatoires par rapport à la césarienne. Vous n'êtes pas là tout le temps, il va falloir fonctionner de cette manière-là. Donc, vous tirez votre lait toutes les 3 heures, et vous laissez vos filles au sein le plus possible. Et donc, elles me les mettaient au sein, et j'essayais de retenir les gestes qu'elles faisaient pour pouvoir le faire seules quand elles n'étaient pas là. Et elles m'ont appris à me servir du tire-lait après que je l'ai demandé. Donc ça leur faisait pas particulièrement plaisir de m'apprendre, mais j'avais pas vraiment le choix parce que je savais pas comment ça fonctionnait. Donc on est rentré dans cette petite routine où j'avais une liste de choses à faire et où j'étais un robot en fait qui faisait les choses qu'on me demandait de faire. C'est-à-dire que il fallait les changer, les mettre au sein, noter la quantité qu'elles prenaient. Donc ça, c'était assez contraignant parce qu'il fallait les peser avant la tétée et après la tétée. Et la différence de grammes correspondait à la quantité que mes filles avaient bu. Ensuite, il fallait faire pareil avec la deuxième. Et ensuite, il fallait leur donner le biberon. Et dès que le biberon était donné, il fallait que je tire mon lait pour la fois d'après. Et ça, toutes les 3 heures. Mais ça me prenait à peu près 1 heure par bébé. Donc je faisais ça non-stop, en fait. Parce que c'était très long, leur changer la couche. En plus, moi, je savais, j'étais terrorisée de le faire, mais je me devais de le faire. Donc, je prenais une plombe à changer une couche, une plombe à les mettre au sein, une plombe à les peser, parce qu'il fallait les déshabiller, les rehabiller, les peser, noter. J'avais un carnet. Enfin, j'étais devenue une entreprise de maman de jumeaux, à moi toute seule, en fait. Et je faisais tout ce qu'on me disait de faire, mais de manière très appliquée, très consciencieuse, vraiment comme un travail. Voilà. C'était mon travail, je devais faire ça. Alors je le faisais, mais je n'y prenais aucun plaisir et je le faisais avec beaucoup de peur et d'appréhension. À chaque fois, je me disais, mais cette nuit, quand ma mère est pas comme, parce que j'avais un peu de visite la journée, mais la nuit, je me retrouvais seule et je me disais, quand je vais être toute seule, comment je vais faire, en fait? Comment je vais faire? Parce que j'appréhendais vraiment beaucoup, beaucoup tout ça. Et ça, on a passé 15 jours comme ça. La première semaine, au bout de 2 jours, j'allais dormir avec elle en néonat. Enfin, je dis dormir, on dormait pas parce qu'il fallait faire ça toutes les 3 heures et comme je te disais, c'était très long, donc il y avait pas du tout de moment de sommeil. J'appréhendais les moments où elles allaient se réveiller toutes les deux en même temps, j'avais peur de tout ce genre de détails-là, mais je le faisais. Et au bout de 3 jours, donc comme j'étais que avec elle et je devais retourner de temps en temps en maternité pour faire acte de présence pour qu'ils continuent à m'amener des plateaux repas, etc. Mais au bout de 5 jours, je suis sortie de maternité, donc j'étais que en néonat sur un genre de lit de camp et j'étais plus hospitalisée, donc il fallait que je me débrouille pour mon alimentation à moi aussi. Ça, c'était assez mal fichu, en fait, mais bon, on a passé quand même deux semaines comme ça où moi je m'étais transformée en robot et où mes filles, grâce à Dieu, elles allaient très très bien, mais moi, j'allais de plus en plus mal, en fait, clairement, à ce moment-là.
Et alors, vous êtes sortie au bout de combien de temps ?
On est sortie au bout de 2 semaines. J'appréhendais beaucoup ce moment-là. Alors, d'un côté, j'en avais hâte, parce que pendant ces 2 semaines-là, moi, je dormais pas du tout. Et quelques soirs, je demandais à rentrer chez moi pour passer une nuit complète et à ce qu'elle s'en occupe, mais je culpabilisais beaucoup de ressentir ce besoin-là. Et en même temps, j'avais besoin de me retrouver seule chez moi. Pour moi, c'était aller trop vite. J'étais dans ce mauvais mood où j'avais vraiment peur d'elle. Et quand j'étais en néonate, j'étais tout le temps pleine de panique. J'avais beaucoup de mauvais sentiments qui me submergeaient à ce moment-là, qui étaient principalement la peur et la culpabilité. Et du coup, ça me rendait vraiment anxieuse et j'avais besoin de rentrer de temps en temps chez moi pour essayer de dormir, parce que à la fin de ma grossesse, avec les œdèmes, je dormais quasiment plus. Et puis en néonate, ça s'est pas rangé. Enfin bon. Et du coup, de temps en temps, je rentrais chez moi la nuit. Mais on a passé deux semaines en néonat, oui. Et arrivé le moment de la sortie, donc comme je disais, d'un côté, j'avais hâte pour essayer de créer notre propre rythme à la maison. Je me disais qu'à la maison, j'irais mieux. Que là, c'était vraiment ce système de jamais être seule, de manque d'intimité, de bip partout, et les scopes à enlever, à remettre, et que c'était anxiogène, en fait. Donc je me disais, à la maison, ça ira mieux. Et en même temps, j'avais très peur parce que je me sentais pas capable de m'occuper toute seule de mes deux filles. J'avais peur. Donc j'étais vraiment entre deux eaux. Je leur posais plein de questions avant la sortie et je leur demandais quoi faire si par exemple il faut leur moucher le nez, je sais pas le faire, vérifier que je change bien la couche quand même une dernière fois pour être sûre que je fais ça correctement, et est-ce qu'on peut vous pouvez me remontrer le bain parce que j'ai peur de pas être capable de le faire à la maison. Enfin, c'était plein de questions toutes bêtes comme ça, mais elles répondaient malgré tout, elles répondaient et je notais tout vraiment comme une entreprise, je prenais des notes tout le temps. Et après on est rentré à la maison. Et au départ, pendant 3 semaines, il n'y avait pas comme mon conjoint, donc, parce que il avait choisi de poser son congé paternité une fois qu'on serait à la maison. Donc, c'est pour ça qu'il n'était pas tout le temps là en néonate. Mais je me disais, à la maison, ça ira mieux parce que j'avais peur d'être seule avec elle. Et lui, il allait être là pendant 3 semaines, donc j'étais contente. Et en effet, ces 3 premières semaines se sont plus ou moins bien passées parce que j'étais pas toute seule. Et ça me faisait beaucoup de bien. Mais passé ces 3 premières semaines, il a fallu qu'il rentre et là, ça a été très dur pour moi. Là, ça a été très dur pour moi parce que un peu tout est remonté à la surface. Je me sentais dépassée. J'avais ce sentiment d'avoir eu des bébés prématurés, mais d'être moi aussi une maman prématurée, parce que je me disais, il me manque 2 mois de préparation. Il me manque 2 mois de mes bébés à l'intérieur de moi, de toutes les questions qu'on peut se poser. Et 2 mois, c'est énorme. Je me disais, c'est pas pour rien qu'une grossesse dure 9 mois. C'est parce qu'elle doit pas en durer 7 et que nous, on a besoin de ces 9 mois-là. Donc ça remontait beaucoup à la surface. Je repensais à cette hospitalisation, à cette pré-éclampsie. Je me disais, ça allait trop vite. J'étais pas prête à devenir maman maintenant. Je me disais, mais avec la peur que t'as de tes filles, peut-être que t'as fait une bêtise, peut-être que vous étiez pas prêt à devenir parent, peut-être que c'est allé trop vite pour vous. Je remettais un peu toute ma vie en question. Et mon quotidien était rythmé, par les pleurs de mes bébés et par mes pleurs à moi. Parce que, entre-temps, mes filles ont déclaré donc un RGO, qui est un reflux gastro-œsophagien. C'est-à-dire que dès qu'on est rentré à la maison, elles ont commencé à beaucoup pleurer. Je comprenais pas trop, elles s'alimentaient pas très bien. Elles refusaient les biberons ou alors elles les engloutissaient et elles les vomissaient juste après. Enfin, on avait vraiment de gros problèmes au niveau de l'alimentation. Alors, j'ai remis en question mon allaitement. Je me disais si elles semblent être autant dérangées et avoir mal au ventre, c'est peut-être parce que mon lait n'est pas bon. Parce que du coup, on était restés dans un allaitement mixte. Elles avaient le sein plus des biberons. Donc, j'ai stoppé mon allaitement en me disant bêtement, je vais essayer d'arrêter pendant une semaine. Et si ça va pas mieux dans une semaine, je reprendrai. Pas du tout renseignée, la nana. Comme si on pouvait se permettre de faire un truc comme ça. Je me suis dit, je vais stopper pendant une semaine et je vais reprendre. Alors aujourd'hui, pareil, je me dis, mon Dieu, mais j'étais vraiment perché complet. Hein. Je me rendais pas du tout compte. Genre, on peut arrêter son allaitement une semaine, donc j'ai stoppé ça. Pas comme qui savait pas trop, il m'a dit ouais, vas-y, tente et tout, ça peut être bien. Au moins, on verra si c'est ton lait qui leur fait mal. Évidemment, c'était pas du tout mon lait, donc on est rentré dans ce truc de valse des laits. Je changeais de lait toutes les semaines en essayant de trouver le lait qui leur ferait plus mal au ventre. Évidemment, mon allaitement, il s'est stoppé. Et en fait, c'était tout simplement que c'était pas un problème de lait, c'était un problème d'immaturité digestive et qu'il fallait que ça passe. Mais ça se traduisait par des journées, des nuits entières avec mes bébés au bras, une en écharpe, l'autre à côté, et elles avaient besoin d'être bercées, et elles avaient besoin d'être constamment en position droite. Je pouvais pas les allonger ni les poser dans leur lit, il fallait qu'elles soient contre moi et droites. Donc les nuits blanches se sont enchaînées. Moi, mon mode robot s'est accentué x 1000 parce que je tenais un peu à l'adrénaline. Je me disais, il faut pas que tu flanches, elles ont besoin de toi, mais n'arrivais toujours pas à prendre de plaisir ni à conscientiser ce que je faisais. Je m'occupais d'elle parce qu'il fallait le faire, mais pas parce que j'avais cet attachement et ce lien envers elle. C'est juste que je devais bien m'en occuper. Et je pleurais beaucoup parce que j'étais épuisée et parce que je reconnaissais pas ma vie, parce que je savais plus qui j'étais et parce que j'avais pas le temps de manger, pas le temps de prendre une douche, j'avais le temps de plus rien, j'avais mes bébés sur moi du matin jusqu'au soir. Et quand Paco m'a repris le travail, c'était l'enfer, clairement. C'était l'enfer, j'étais coincée chez moi avec deux bébés qui hurlaient du matin au soir et je supportais plus les pleurs, je supportais plus rien. Et du coup, je pleurais tout le temps. Mes parents, ma mère me le faisait remarquer, des fois je laissais les petits à Paco une heure ou deux pour aller faire les courses. Et pendant une heure aux courses, les larmes coulaient sans que je puisse les arrêter, en fait. Et elle me disait, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? Mais je disais, j'arrive pas à mettre de mots dessus, mais ça va vraiment pas. Je me reconnais pas moi, ni ma vie, ni mes enfants. Je me demande si j'ai pas fait une connerie. Est-ce que j'étais prête? Je mettais des mots avec ma mère, mais c'était la seule personne avec qui j'arrivais à parler, parce que j'ai toujours été très proche de ma maman. Je suis fille unique et c'est ma mère, mais c'est aussi ma meilleure amie, et c'est aussi la personne en qui j'ai le plus confiance, je pense, sur cette terre. Et avec elle, je savais que j'étais pas jugée. Mais autour de moi, il y avait toujours ce truc de oh là là, c'est que du bonheur, c'est que du bonheur. Et moi, je dépérissais à vue d'œil. Et les gens, ils me disaient, c'est que du bonheur. Et je me disais, mais soit c'est eux qui sont fous, soit c'est moi qui suis folle. Mais il y a quelqu'un qui a un cerveau qui tourne pas rond dans un de nos cerveaux, quoi. C'est pas possible. Moi, le bonheur, je le voyais pas du tout, en fait. Je le voyais pas du tout. Au contraire, j'ai jamais été aussi malheureuse que lorsque je suis devenue maman. Aujourd'hui, c'est horrible de dire ça, mais quand je repense à cette première année qu'on a passée, en particulier les 6 premiers mois, jusqu'à ce que je pose des mots enfin sur ce que j'avais, je m'étais jamais aussi sentie aussi malheureuse. Alors quand on me disait c'est que du bonheur, j'avais envie de devenir une petite souris et de m'enterrer dans la terre, quoi. Et je disais, parce qu'on peut pas dire non aux gens, c'est pas que du bonheur. Enfin, vous voyez vous dire, ben non, c'est au contraire, c'est pas que du bonheur, j'ai jamais été aussi malheureuse.
Et alors, à quel moment tu t'es rendu compte qu'il y avait un souci, que t'as posé ces mots justement et que t'as fait quoi? T'es allé voir quelqu'un?
Alors, il y a eu un soir plus dur qu'un autre où j'ai eu une crise de larmes, mais les sanglots à pas pouvoir m'arrêter. Et là, Pacom m'a dit qu'il y avait quelque chose qui allait pas et qu'il fallait que j'en parle, en fait. Donc, j'ai tapé sur Internet maman malheureuse. Je suis tombée sur Google, un truc comme ça, j'ai tapé. Je me rappelle, j'étais assise par terre en larmes dans mon dressing et je me suis dit, mais comment je vais trouver une solution? Et j'ai tapé sur Google maman malheureuse. Et je suis tombée sur le site de l'association Maman Blues, qui a été une magnifique découverte pour moi. Et j'ai discuté avec, je crois que c'est la présidente de l'association qui s'appelle Élise. Je lui ai envoyé un mail et je lui ai dit un peu tout ce que je viens de raconter là. Et les premiers mots qu'elle a eu envers moi, c'est de me rassurer. Elle m'a dit que c'était normal et elle m'a tout de suite donné un nom d'une psychologue près de chez moi spécialisée dans la périnatalité. Et elle m'a dit, elle m'a conseillé d'aller la voir. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé cette psy et elle m'a pris très rapidement en rendez-vous pour 2-3 jours après. Donc ça a été la première démarche qui a été un peu salvatrice pour moi, grâce à Pacom notamment, qui m'a encouragée à le faire, parce qu'il a mis les mots que j'arrivais pas à mettre avec lui, en fait. Parce que pour lui, tout était tellement fluide et naturel dans son rôle de papa. Je te jure, c'était impressionnant. Il prenait les filles, il les changeait, il les baignait, il leur donnait le biberon, mais comme si c'était une prolongation de lui-même, en fait, ce que moi je croyais que ça allait être pour moi aussi avant de devenir maman. Et je culpabilisais encore plus parce que je me disais, mais pourquoi tout est si facile pour lui et tout est si dur pour moi? Le moindre geste pour moi, c'était, fallait que j'y réfléchisse, fallait que je note, j'étais paniquée. Enfin bon. Et lui, tout était fluide. Et du fait de cette fluidité, j'arrivais pas à lui dire que moi, ça allait pas. Sauf que lui, ben, forcément, il le remarquait, vivant avec moi. Et du coup, qui me conseille d'essayer de trouver une solution. Il savait pas comment, mais il m'a dit d'en parler. Et c'est ce que j'ai fait. Et grâce à lui, je suis tombée donc sur cette association. Et j'ai été rencontrer cette psy. D'ailleurs, il m'a accompagnée, il m'a attendue dans la voiture. Et quand je suis arrivée à ce rendez-vous, j'étais stressée parce que j'allais devoir pour la première fois en parler à quelqu'un d'autre que ma mère, en qui j'avais confiance. Et ma mère m'encourageait aussi à en discuter, mais elle était beaucoup, comme elle a pas vécu la même chose que moi, mais qu'elle savait que c'était dur de devenir maman, elle me disait que pour elle aussi, ça avait pas été naturel. Mais je lui disais, maman, est-ce que ça a pas été naturel? Ok, mais est-ce que ça a été si dur que pour moi? Et elle me disait non, parce que toi, t'as fait tes nuits tout de suite, là, les filles, elles dorment pas, etc., ça doit être très difficile, etc. Mais on n'avait pas encore de mots sur vraiment la vraie pathologie qui était en train de s'insinuer en moi, en fait. Et du coup, j'allais en parler pour la première fois à quelqu'un d'extérieur. Et je me suis assise, elle m'a dit « Bon, ben alors, racontez-moi ce qui vous amène ici. » Et les deux, trois premiers mots ont été durs à prononcer, mais ensuite, ça a été un flow. C'est comme si elle avait ouvert un robinet. Et j'ai parlé pendant des heures, je sais même pas. J'avais plus de notion du temps, mais je lui disais vraiment tout ce qui me passait par la tête. J'ai vidé mon flot de pensée à cette femme-là, qui m'a écoutée, qui a pris des notes. Et j'ai ri, et j'ai pleuré, et j'ai eu peur, et je me suis sentie apaisée. Je suis passée par toutes les émotions pendant ce temps qu'elle m'a accordé, qui était vraiment un temps pour moi. Et à la fin, elle m'a dit, mais c'est normal, madame. Elle m'a dit, c'est normal ce que vous vivez, c'est normal ce que vous ressentez, il faut que vous arrêtiez de culpabiliser. Et elle m'a dit, et surtout, il faut que vous arriviez à vous comporter avec vous comme vous le feriez, par exemple, avec votre meilleure amie ou avec votre conjoint ou avec votre maman. Elle me dit, vous avez peur d'en parler, mais les gens qui vous aiment, ils vont pas vous juger. Ils vont être doux, ils vont être bienveillants, ils vont vous comprendre, en fait. Elle me dit, il faut vraiment arrêter de culpabiliser. Ce que vous ressentez, c'est normal. Elle m'a dit, vous êtes passé par beaucoup de changements et d'émotions en très peu de temps. Il y a un deuil, enfin, elle m'a dit, vous avez un nombre de deuils immenses à faire. Le deuil de votre vie d'avant, déjà. Le deuil de votre grossesse. Le deuil de l'accouchement rêvé que vous aviez. Le deuil de la rencontre avec vos filles qui s'est fait aussi à retardement. Elle a dit, c'est beaucoup de choses en très peu de temps et votre cerveau a besoin de temps pour tout accepter. Elle m'a dit, donc c'est normal. Elle m'a dit, là, elle a mis des mots sur la dépression du postpartum aussi. Elle m'a dit, à cause de tous ces deuils et de tous ces changements, vous êtes en train de vivre ce qu'on appelle donc une dépression du postpartum. Elle me dit, mais moi, je suis très optimiste sur le fait que vous puissiez vous en sortir toute seule ou avec mon aide, sans passer par une aide médicamenteuse, parce qu'elle m'a expliqué que, pour l'instant, j'en étais encore un peu au début, mais que j'avais pas encore sombré trop bas parce que j'étais encore consciente de beaucoup de choses. Elle m'a rassurée sur mon rôle de maman. Elle m'a dit, mais toutes ces peurs, toute cette inquiétude que vous avez, ce mode robot, je lui disais tout le temps, j'ai l'impression d'être un robot. Elle me dit, au contraire, ça fait pas de vous une mauvaise maman, ça fait de vous une bonne maman parce que vous en êtes consciente, vous voulez bien faire, vous êtes investie auprès de vos filles, vous les aimez assez justement pour essayer de faire les choses au mieux pour elles et pour être du coup submergée par toute cette charge mentale. Elle m'a dit, vous avez tout simplement pas encore accepté ce qu'il y a à accepter et ça va aller. D'après elle, ça allait aller. Et elle m'a énormément rassurée en me disant que j'étais une bonne maman et que c'était normal. Elle m'a expliqué ce processus de changement d'identité auquel on fait toute face quand on devient maman. Elle a fait le parallèle entre l'adolescence et justement la matrescence avec ce changement d'identité tout simplement qui prend du temps à se faire parce que j'avais ce sentiment de ne plus être celle qui j'étais mais de pas encore être devenue celle que j'allais être, d'être entre deux. J'étais tiraillée entre la moi d'avant avec l'insouciance, la liberté et puis d'un autre côté j'étais submergée par le poids des responsabilités et cette personne que je regardais dans le miroir mais je me disais bon ben toi t'es censée être maman mais pourtant il y avait encore l'ancienne Alexandra qui était là. Et du coup, j'étais vraiment tiraillée entre deux mondes et ça, je le ressentais puissance 1000. Donc, quand elle a mis les mots sur tout ça, je me suis dit, mais voilà, c'était ça. Et ça m'a permis de me sentir vraiment libérée. Et ce rendez-vous-là, ça a été le début de ma guérison pour moi. Ça a marqué vraiment le premier pas vers la compréhension déjà, pour ensuite accepter. Ça a été assez salvateur.
Combien de temps ça t'a pris alors pour aller mieux?
Alors, quand je suis sortie de ce rendez-vous-là, j'ai beaucoup pleuré, mais pour une fois, c'était plus des larmes de culpabilité ou de peur. Au contraire, c'était des larmes comme si on avait mis des mots sur ce que je ressentais et que j'allais enfin être sauvée. Et quand elle a dit « Mais vos filles, vous les aimez », ça m'a permis de me rendre compte que oui, je les aimais justement. Parce que j'en doutais, comme je ressentais pas ce fameux lien de fou, d'instinct maternel, de savoir quoi faire, de tout ce qu'on nous matraque toute la journée en fait, partout. Comme je ressentais pas ça, je me disais, mais je suis horrible, peut-être que je les aime pas en fait. Et en fait, à partir de ce jour-là, je me suis rendu compte d'un truc, et pour moi ça a été magique, je me suis rendu compte que chaque jour qui passait, mes filles, je les aimais un peu plus que la veille. Et je me suis dit, mais en fait, cet amour, il se tisse, il se crée, comme avec n'importe quelle personne qu'on rencontre, je veux dire. Quand on a rencontré notre mari ou notre conjoint, c'était pas tout de suite l'amour de notre vie. On s'en est rendu compte avec les mois, avec les années que c'était l'amour de notre vie, justement, parce que l'amour se tisse à mesure qu'on fait connaissance et qu'on apprend l'autre, qu'on apprivoise, qu'on apprend à le découvrir. Et moi, je me suis rendu compte de ça, mais du jour au lendemain, quoi. Je savais pas. Pour moi, l'amour, il devait me tomber dessus. En fait, non, l'amour, je l'ai construit. Et aujourd'hui, mes filles, elles ont 2 ans, mais je les aime 1 milliard de fois plus que quand je les ai connues. Il y a même pas photo. Et du coup, j'ai trouvé ça, salvateur, ça m'a libérée. Je me suis dit, je les aime. Alors, cette première nuit-là, ben, je suis allée les voir dans la chambre et elles dormaient paisiblement pour une fois. Et du coup, je me suis assise et je leur ai dit, ben, Eva, Anna, c'est moi, c'est votre maman. Je m'appelle Alexandra, il s'est passé ça, ça et ça. Et c'est pour ça que j'étais dans la difficulté. Et j'ai eu peur, mais maintenant, je commence à moins avoir peur. Donc, on va y aller doucement, mais on va apprendre à se connaître et on va se regarder, on va s'apprivoiser, on va... Je leur ai parlé, je leur ai raconté notre histoire, notre parcours, le pourquoi du comment. Je me suis rendu compte que depuis qu'elles étaient nées, à aucun moment je leur avais parlé. Je les regardais, mais il n'y a rien qui sortait parce que je ne savais pas comment m'y prendre. Et le fait d'avoir mis des mots avec cette psy-là, je me suis sentie capable de leur parler à elles. Et en fait, ça a été une succession de petits pas comme ça qui m'ont permis à moi de prendre du temps pour moi et de prendre du recul. Et d'un côté, j'en ai parlé du coup à ma mère. Elle m'a dit, bon ben, on va faire en sorte de t'apporter plus de relais. Donc, au départ, je les ai laissés à ma mère 2 nuits par semaine pour que je puisse dormir, ce qui a été salvateur pour moi parce que j'avais vraiment beaucoup de sommeil à récupérer. Et le manque de sommeil, ça m'a permis de me rendre compte aussi que j'étais plus du tout moi. Je voyais tout en noir, je voyais tout plus sombre. Enfin, j'étais plus lucide par rapport à ce manque de sommeil cumulé depuis des mois. Mon conjoint, à la sortie de ce rendez-vous, je lui ai dit aussi que j'allais avoir besoin justement pour mieux apprivoiser ce changement d'identité, d'avoir un peu de moments rien qu'à moi, si ce n'est enfin pour dormir ou même pour aller faire du shopping ou pour regarder un film ou juste pour rester assise à rien faire, mais que j'allais avoir besoin de temps pour moi, pour me retrouver. Et donc, tous ces petits pas cumulés, c'est-à-dire l'aide de ma mère qui m'a permis de plus dormir, le relais de mon conjoint un peu qui était déjà beaucoup présent, mais qui soit encore un peu plus présent et qui soit au fait de cette maladie que j'avais, en fait, parce que c'est une maladie, la dépression du postpartum. Ça lui a permis aussi d'être plus présent. Et tout ça cumulé, ça m'a permis petit à petit d'accepter. Et ce qui a été aussi très important, enfin, très salvateur pour moi, c'est quand j'ai créé mon compte Instagram pour en parler. Parce que une fois que j'ai été au courant de cette dépression, j'ai voulu me renseigner dessus. Et je trouvais rien. Je trouvais pas de maman qui a été malheureuse ou qui était dans la difficulté, etc. Et un jour, Pacom, il m'a dit, mais tu sais, il y a une communauté de mamans assez présente sur Instagram. Crée-toi un compte. Tu pourras en discuter. Et en effet, grâce aux différents hashtags, j'ai vu qu'il y avait énormément de mamans qui vivaient la même chose que moi. Et ça, ça a été un coup de massue. Je me suis dit, mais pourquoi on parle que de celles qui sont heureuses, mais on parle pas de celles qui sont aussi malheureuses? Ça existe des mamans qui sont malheureuses. Des mamans qui mettent plus de temps à tisser du lien, qui mettent plus de temps à accepter leur nouvelle vie, qui mettent plus de temps aussi à ressentir ce bonheur dont on parle. Pourquoi elles sont pas mises en avant, en fait? Et en créant mon compte, ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait énormément de mamans et de comptes qui étaient là pour en parler. Et ça m'a permis de découvrir ton podcast aussi. Et ça m'a permis de découvrir que la maternité, ben, elle était pas que belle. Et par la suite, ça, j'en ai fait mon credo parce que je me suis dit, on est là à nous dire, oh, c'est trop beau, c'est trop beau. Oui, mais pas que, en fait. Pas que. Il y a aussi des difficultés. Et donc, le fait d'en discuter, le fait d'écrire et de mettre, grâce à mes textes, à plat toutes mes émotions, ça a été salvateur. Le fait qu'il y ait des mamans qui me disent « mais moi, je vis la même chose que toi », qui se reconnaissaient dans mon parcours, ça m'a permis de me sentir moins seule, ça m'a décomplexée, ça m'a déculpabilisée. De là, j'ai découvert plein de comptes, j'ai écouté plein de podcasts et je me suis dit « mon Dieu, mais en fait, t'es pas la seule et ce que tu vis, c'est pas grave et c'est normal en fait, c'est normal, ça fait partie de la normalité de la maternité ». Même si la normalité qu'on nous montre avec ce matraquage d'injonctions et qu'on nous biberonne au bonheur instantané, etc., ben c'est pas que ça. C'est ça, mais c'est pas que ça. Et la vraie vie des mamans qui sont en difficulté, elle mérite aussi d'être entendue pour aider, décomplexer et aussi préparer les futures mamans. Parce que si j'avais été préparée, moi, je suis sûre que j'aurais vécu les choses avec beaucoup plus de douceur envers moi-même, en fait, de savoir que c'était possible. Et le cumul de tout ça, ça m'a permis de m'en sortir. Et un an après, c'est-à-dire le 24 août 2019, je me suis rappelée de ce que m'avait dit le pédiatre que j'ai rencontré le premier jour en néonat qui a participé en fait à me présenter mes filles. Il m'avait dit, vous savez, il va vous falloir un an pour vous en remettre. Que ce soit physiquement ou psychologiquement, il vous faudra un an. Alors, j'ai pas compris. À ce moment-là, ce qui m'a le plus marqué, c'est le côté physique, parce que je me suis dit, en effet, avec les œdèmes, avec les douleurs, physiquement, je sens qu'il va me falloir du temps. Mais je me suis rappelée qu'il m'avait dit aussi psychologiquement. Et sur le coup, j'ai pas posé de questions. Et je me dis, j'ai été bête avec le recul, j'aurais dû creuser là-dedans parce que ce pédiatre, c'est un des rares pédiatres que j'ai rencontré qui prend en considération la mère et l'enfant. Les deux, dans leur globalité. Et ça, c'est très rare. Et j'aurais dû lui demander plus de détails, mais bon, je l'ai pas fait. Et par la suite, on m'a pas proposé de voir de psy en néonat. Sur ça, il y a eu un manque de suivi, je pense. Mais je me suis rendu compte qu'il avait raison parce que un an après, quand je me suis retournée sur tout ce chemin qu'on avait parcouru, je me suis dit, j'ai eu 6 mois de descente et 6 mois de remontée. Vraiment. Et un an au total pour en guérir. Et je suis retournée en néonat, donc un an après la naissance des filles, parce que j'avais besoin de faire un petit pèlerinage pour fermer une porte sur tout ce qui s'était passé. Donc avec ma mère et mes filles, on a pris la poussette et on est allé en néonat. J'en ai profité pour revoir toute l'équipe qui m'avait aidée. J'ai même pas les mots tellement pour moi ça a été un moment important. Et j'ai vu ce pédiatre et j'ai vu cette infirmière et cette sage-femme qui était là le premier jour. Et je leur ai demandé l'autorisation d'aller voir la chambre dans laquelle on avait été pendant 2 semaines. Elles m'ont autorisé. Elles m'ont dit, en plus, il y a une maman de jumeaux qui y est en ce moment même. Ça lui fera plaisir de discuter avec vous. Et du coup, je suis allée dans cette chambre-là. J'ai été submergée d'émotions. J'ai dit à mes filles, ben, vous voyez, voilà, c'est là qu'on s'est rencontrées. Aujourd'hui, c'est là que je veux vous dire que maintenant, ça y est, maman, elle est guérie. Maman, elle est vraiment là. 100% avec vous. Elle a fait le deuil de tout ce qu'elle avait à faire. Et en aucun cas, c'est votre faute. C'est vraiment un travail qu'on avait à faire toutes les trois. On l'a fait et on peut être fiers de nous, en fait. Et je leur ai dit tout ce que je ressentais à ce moment-là. Et j'ai parlé aussi avec cette maman de jumeaux qui était là. Elle avait aussi des appréhensions. J'avais l'impression de me revoir un an en arrière. Et je lui ai dit, vous inquiétez pas, ça va aller, ça va passer, c'est normal. Elle m'a dit, elle me disait que c'était difficile pour elle de jongler entre la néonate et la fin de la grossesse, et elle aussi, elle avait une césarienne en urgence, donc on a un peu discuté de tout ça, donc je lui ai pas fait une séance de psy comme moi j'ai eu, mais je lui ai dit qu'en tout cas, tout ce par quoi elle passait, c'était normal que ça allait passer, et je lui ai dit surtout que elle était une bonne maman, et que tous ses choix étaient bons parce que c'était elle qui les faisait, et qu'il lui fallait du temps, et que c'était normal, et que ça allait passer, quoi. Et qu'il fallait qu'elle soit indulgente envers elle-même, en fait. Surtout ce que j'avais, je me suis dit, dis-lui ce que toi t'avais besoin d'entendre quand t'étais là, quoi. Et que j'ai pas entendu. Et donc, on a fermé la porte de la néonate. Et quand j'ai fermé cette porte-là, ben, j'ai fermé la porte aussi à ma dépression du postpartum. Aujourd'hui, je peux le dire, ça s'est vraiment passé un an après, jour pour jour quasiment. C'était incroyable, en fait. Mais ça s'est passé comme ça.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité ?
Ça a tout changé. C'est rigolo. J'ai envie de dire, ça a tout changé. Et en même temps, ça a rien changé parce que je suis la même personne qu'avant. Mais en même temps, je suis totalement différente. Ça m'a permis de me découvrir en tant qu'une autre personne. En fait, je me suis rendu compte que dans une vie, on pouvait vivre 1000 vies et qu'on était tout autant de personnes différentes que de vies qu'on vivait. Donc, j'étais l'Alexandra avant d'être maman et maintenant, je suis la Alexandra maman. C'est la même personne, mais avec une conscience différente de ce que justement la maternité nous apporte. C'est-à-dire que ça m'a permis de me découvrir. Ça a permis de découvrir qui j'étais, à quel point je pouvais être forte, à quel point je pouvais être faible aussi, à quel point je pouvais être courageuse et à quel point je pouvais être effrayée. Ça m'a fait passer par des montagnes russes et découvrir des parties sombres de moi-même et en même temps les parties les plus lumineuses. Voilà, parce que ça a changé, je dirais.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman toulonnaise ?
Être une maman toulonnaise, c'est être une maman qui a la chance de vivre entre la colline, la montagne et la mer. C'est vraiment ça. On a la chance de pouvoir aussi bien aller à la plage avec nos enfants que les amener courir sur des sentiers dans la colline, quoi. On vit 2 mondes en 1 à Toulon.
Quel est ton endroit kids friendly préféré à Toulon ?
Je dirais les plages du Mourion, parce qu'aussi bien en hiver qu'en été, on peut y faire de belles balades, il y a des jeux adaptés aux tout petits, aux un petit peu plus grands, il y a des grands espaces de pelouse, que de sable, la mer, enfin c'est vraiment un endroit génial pour pique-niquer, pour se balader, pour tout faire, je trouve ça cool.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille ?
Alors mes projets rien que pour moi, ben, c'était déjà d'enregistrer ce podcast. Et aussi bientôt de reprendre mon travail. Dans quelques semaines, là, je reprends le travail et ça, j'avoue que je m'en sens enfin prête et capable et je suis contente parce que c'est un truc que je fais rien que pour moi. Et des projets en famille, ça serait pour l'été prochain de grandes vacances. Les premières qu'on prendrait à 4, à l'étranger, si possible.
Merci beaucoup, Alexandra.
Merci à toi, Shane.
Merci d'avoir écouté Le Tourbillon et si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en mettant un avis et 5 étoiles sur votre application podcast. Cela m'aidera beaucoup. Pour échanger sur le sujet abordé avec Alexandra, laissez vos commentaires sous la photo de l'épisode 77 sur le compte Instagram Le Tourbillon Podcast. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.